Dzień dobry, bienvenue à vous. Suivez le guide s'installe en Pologne, dans la capitale. Pour quelques émissions, nous sommes à Varsovie. Faut-il resituer la Pologne ? Elle donne au nord sur la mer Baltique, entourée par 7 pays, à l'est Russie, Lituanie, Biélorussie et Ukraine, au sud Slovaquie et République tchèque, et à l'ouest l'Allemagne. Varsovie est au centre-est du pays, à près de 1400 km, à vol d'oiseau de Paris.
Radio Polonia.
Varsovie est depuis 1596 la capitale polonaise, située sur la Vistule, à environ 320 km au sud de la mer Baltique, peuplée par plus d'1 800 000 habitants, 3 millions pour l'agglomération. Quel nom associe-t-on à Varsovie ? Artistiquement, sans aucun doute, Chopin, Frédéric Chopin. Nous en parlons dès cette première émission, mais aussi le pacte de Varsovie, il en sera question. Également le ghetto de Varsovie, ce sera dans notre dernier rendez-vous. Sans oublier, mais ce n'est pas une exclusivité varsovienne, la vodka polonaise.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Guest star également dans cette première émission, le général de Gaulle. Nous parlons tourisme en Pologne alors que le pays connaît des manifestations monstres contre l'interdiction de l'avortement. Sachez aussi que ces enregistrements ont été réalisés dans un contexte beaucoup plus léger et festif, mi-juillet 2018, le week-end de la finale du Mondial. Nous en ferons écho. Faisons tout de suite connaissance, si vous le voulez bien, avec notre guide. À 11 avant, on a du mal à s'imaginer. Suivez le guide à Varsovie, suite dans le cœur historique avec Agnieszka Biesadeka, sachant que plus de 85% du centre historique de la ville ont été détruits par les troupes nazies et non par les bombardements alliés.
The General Staff has issued the following communique number 1 at 6:15 p.m. On the 1st of September 1939 at dawn, the Germans crossed into our territory. German Air Force and regular army unexpectedly invaded Polish territory without a declaration of hostilities. In the early morning, the German airplanes attacked a number of towns all over Poland. The German airmen have bombed Augustów, Nowitzburg, Ostrów Mazowiecki.
Dzień dobry, bonjour, je m'appelle Agnieszka Biesiadecka.
Agnieszka, ah oui, moi j'aurais
oui,
dit Agnieszka.
C'est Agnieszka en français, mais Agnieszka en polonais.
Faut prononcer le G.
Oui, oui, oui.
Agnieszka.
Agnieszka, je suis... votre guide de Varsovie. Et donc, nous commençons notre visite de Varsovie sous la pluie.
Oui, enfin, moi, depuis que je suis arrivé, c'est toujours sous la pluie. Hein.
Et...
enfin, souvent.
Par contre, les 3 derniers mois étaient très beaux. Hein.
Mince.
Donc, vous n'avez pas de chance.
Non. Et alors, mais... on est à Varsovie, on est en Pologne, et pourtant on est en France, un petit peu là.
Un petit peu, oui, parce que nous sommes à côté d'une place qui s'appelle le rond-point Charles de Gaulle. Vous voyez la statue de Charles de Gaulle, qui est la copie de celle de Paris. Charles de Gaulle est posé de façon à regarder cette rue où nous allons entrer bientôt. C'est une partie de la voie royale qui s'appelle l'avenue du Nouveau Monde, Nowy Świat en polonais, où Charles de Gaulle a passé quelques mois en 1920, quand il était jeune officier, le capitaine de Gaulle, qui est venu à Varsovie avec le général Maxime Weygand.
Ah oui, Weygand, oui.
Pour faire les formations aux soldats et jeunes officiers polonais dans cette Pologne qui a fraîchement repris l'indépendance après 120 ans de... partage donc des occupations différentes. Donc les liens de Charles de Gaulle avec Varsovie sont beaucoup plus anciens que beaucoup de personnes croient.
Ah oui, bah alors moi j'ignorais que Charles de Gaulle était passé, avait séjourné, passé plusieurs mois ici en Pologne tout court. Hein, même.
Oui, apparemment il a même eu une histoire amoureuse. Il a habité au premier étage d'une pâtisserie très très renommée de Varsovie qui s'appelle Bliklay.
Il est tombé amoureux de la pâtissière ?
Peut-être pas de la pâtissière, mais de la vendeuse.
Ah, de la vendeuse.
De la vendeuse de beignets. Et ces beignets, il s'en rappelait encore quand il visitait la Pologne dans les années 60. Et M. Bliklay, donc le nouveau propriétaire, le descendant de...
Lui livrait des beignets.
Lui livrait des beignets à l'Élysée, tous les jeudis.
Mais quelle folie ! Non, il n'avait pas de folie. C'était moins qu'aujourd'hui, moins que certains présidents aujourd'hui. Donc petite folie, les beignets, on apprend déjà beaucoup de choses avec vous, Agnieszka. Donc c'est pas le rond-point de l'étoile, il n'y a pas l'Arc de Triomphe,
non,
mais
c'est
Charles de Gaulle
quand
même.
Par contre, vous voyez un palmier qui n'est pas naturel, c'est un palmier artificiel par contre.
Ah bon, ça pousse pas ici les palmiers en
Pologne ? Ça pousse pas, non, le climat n'est pas favorable.
C'est totalement décalé.
Ça a un lien avec le nom de cette avenue qui s'appelle l'avenue de Jérusalem. Le nom vient d'un petit village juif qui existait au XVIIIe siècle, à la fin de l'actuelle avenue. Mais il rappelle aussi la communauté juive de Varsovie, qui était bien grande et peut-être même la plus grande de l'Europe jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
C'était 30% de la population de la ville ?
À peu près. 360 000 juifs habitaient à Varsovie avant la guerre. Donc le palmier, il fait un lien entre cette Varsovie d'avant-guerre et Jérusalem.
Ouais. Alors on peut se donner rendez-vous, c'est quand même un côté un peu bizarre, se donner rendez-vous à Varsovie sous le palmier.
Tout à fait, tout à fait.
C'est romantique.
Not even that magnetic crowd compeller, President de Gaulle, ever had a greater reception abroad than on his six-day tour of Poland. He had proclaimed that his chief object was to bring the country into a pan-European community, independent of the world's two major power blocs. Apparently, the Polish people welcomed the idea.
Quant au grand bâtiment carré, hein, blanc, derrière Charles.
Ah oui, c'est un bâtiment qui a aussi son histoire. En 1948, il a été construit spécialement pour le comité central du parti. Enfin, le parti qui s'appelait Parti ouvrier, mais c'était
le
Parti communiste, tout à fait, dans ce temps pas très heureux pour la Pologne après la Deuxième Guerre mondiale. Donc la couleur blanche disait que c'était le contraire d'un radis, parce que en dehors c'est blanc et derrière c'était rouge. Après la chute du communisme, c'est le bâtiment où a été organisée la première bourse dans le monde ex-communiste. Maintenant, la bourse a déjà son nouveau bâtiment très moderne, et dans ce bâtiment, il y a plusieurs bureaux, institutions financières.
Mais il n'est pas si laid, hein, ce bâtiment.
Mais c'est un typique
par rapport à d'autres bâtiments
du modernisme, oui. D'après la guerre, oui. Ben, c'est le style.
Mais il y a pire.
C'est le style que nous appelons style socialiste, donc socialisme réaliste. Et c'est le style qui répondait aux besoins de la propagande aussi. Hein. Il y avait le socialisme dans les arts, dans la littérature, mais aussi dans l'architecture. Donc c'est un des exemples typiques.
Voilà, et puis on est sur une large et grande avenue. À Varsovie, il y a plusieurs, vraiment, des avenues qui sont dignes des Champs-Élysées. Hein. Il y en a quelques-unes comme ça.
Oui, tout à fait, sauf que leur origine est assez triste parce que ça vient du fait que Varsovie a été presque complètement détruite. Oui. Donc après la guerre, beaucoup de quartiers en style Art Nouveau étaient rasés et même les bâtiments qui ont survécu ont été condamnés à mort parce que justement cette nouvelle idée de faire une ville dans le style socialiste demandait aussi une nouvelle architecture et beaucoup plus d'espace. Donc là où vous voyez maintenant les avenues très larges, avant il y avait des beaux quartiers, des hôtels particuliers de l'époque où Varsovie était comparée avec Paris. On disait Paris de l'Europe centrale, c'est Varsovie. Mmh. Aujourd'hui, il y a très peu de quartiers dans ce style, mais on peut quand même les trouver. Donc nous sommes justement sur la voie royale, l'avenue du Nouveau Monde, qui est appelé aussi Petit Champs-Élysées souvent, parce que c'est l'avenue justement où tout le monde vient, où il y a des boutiques, il y a
chic.
Des cafés, restaurants, oui. Surtout le week-end, vendredi soir ou samedi soir, c'est plein, tout le monde vient ici. Il y a aussi les petites rues à côté, les rues piétonnes, où la vie nocturne de Varsovie se fait.
Ouais. Alors si on parle de cafés et de restaurants, bon, Varsovie ne manque ni de café ni de restaurant. Je pense qu'il y en a à peu près un, allez, tous les 10 mètres. Non, j'exagère un peu.
Nous sommes dans la zone qui est très touristique, donc c'est normal qu'il y a beaucoup de cafés et de restaurants. Mais c'est vrai que, surtout sur cette avenue, les cafés et restaurants ont remplacé les boutiques. Parce qu'avant, les gens achetaient dans les boutiques individuel. Aujourd'hui, c'est des grands centres
périphériques, il y a les hypermarchés.
Voilà, voilà.
Et des enseignes françaises, d'ailleurs.
Oui, bon, dans les hypermarchés, mais il y a aussi des shopping centers
oui, ah, aussi.
Très élégants.
Oui, il paraît qu'il y a très joli mall, effectivement.
Oui, 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 vous avez les marques, enfin, les mêmes que vous trouvez en France, en Allemagne, partout.
Là, il est, quelle heure il est? 10h30. Ah, je vois quand même à 10h30 le matin, aux terrasses, il y a déjà des buveurs de bière, voire d'autres boissons un peu plus alcoolisées.
Bah oui, pour boire une bonne bière polonaise, il n'y a pas d'heure. Hein. Elle est bonne à n'importe quelle heure. Et peut-être que certains Polonais soignent comme ça un petit mal de tête après la finale de la Coupe du Monde. Certains étaient pour la France, certains étaient pour la Croatie.
Oui, on pourrait se dire, effectivement, côté slave, peut-être plus pour la Croatie.
Effectivement, beaucoup de Polonais étaient pour la Croatie.
Moi, on dit Croatie ici,
oui. Moi, j'étais pour la France.
Ah, oui. D'ailleurs, l'expression, on parlait d'alcool, etc. Une personne m'avait raconté que c'était un compliment, en fait, quand on disait « sous comme un Polonais ».
Bah oui, parce que apparemment c'est Napoléon qui disait comme ça aux soldats, à ses soldats, « buvez, soyez sous, mais soyez sous comme des Polonais qui ont beaucoup bu et le lendemain matin, ils ont pu se lever, se battre sans aucun problème ».
C'est ça, donc effectivement c'est un compliment.
Voilà, donc c'est la deuxième partie de la phrase qui manque toujours.
Ça les agace les Polonais, l'expression quand on dit « sous comme un Polonais » ?
Un peu, je crois, oui, oui. Bon, il y a d'autres peuples qui boivent beaucoup, même plus que le Polonais.
Les Français se défendent pas mal quand même.
Les Français, les Russes surtout, eux, ils boivent beaucoup.
D'alcool.
Aujourd'hui, ouais. Les Polonais boivent beaucoup moins qu'avant. Hein. La jeune génération, ce n'est plus comme leur père, grand-père.
Boire avec modération et mieux boire, enfin voilà, boire des bonnes choses.
Cette voilà. Phrase aujourd'hui, elle n'est plus vraie. Hein.
Alors voilà, donc effectivement, le café, le fameux café du général.
Oui, enfin, c'est le café Bliclay qui a été fondé par une famille qui est venue de la région de Lac de Constance. Vous voyez la date, 1869, et à partir de cette date, c'est toujours une société privée. Ça n'a jamais été nationalisé, même à l'époque du communisme.
C'est plus la famille Bliclay.
Dernièrement, ils ont vendu.
Ah, donc il y a eu plusieurs générations.
Le dernier descendant, il est toujours vivant, il est même très actif, c'est un professeur. C'est un café qui est toujours très, très renommé, surtout pour les pâtisseries très fines. Un bon café. Et justement, au premier étage, habitait le capitaine de Gaulle quand il était à Varsovie.
C'est une jolie maison, hein, c'est une jolie maison avec des frises comme ça,
oui,
sur le mur blanc.
Sur cette avenue, vous voyez surtout les maisons des familles nobles, parce que c'est l'avenue qui a été avant une voie de commerce qui allait de Varsovie au sud, vers Cracovie. Après, quand Varsovie s'agrandissait, les maisons, les auberges, les exploitations agricoles qui étaient tout au long de cette route se sont transformées en propriétés privées. On commençait à faire des investissements, des manoirs, tout ça. Donc ça, c'est à peu près le 17e, 18e siècle à Varsovie.
Oui. Alors, on dit avenue. Pour nous, c'est une rue assez large.
C'est-à-dire
Par rapport aux autres avenues.
Ah, elle s'appelle rue. Elle s'appelle rue,
d'accord. Oui. Mais on n'est pas sur les larges avenues qui se prêtaient, je pense, au défilé de la période communiste.
Mais même les larges avenues s'appellent toujours rues. Ça,
ah bon.
Ça dépend. Il y a certaines avenues, ça s'appelle en polonais Aleja. Mais par exemple, la rue principale, qui est la plus large, qui s'appelle rue du Maréchal, c'est une rue, c'est pas une avenue.
D'accord. Bon. On a du mal à s'imaginer, toute cette rue a été alors détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été reconstruit à l'identique ou ce sont des bâtiments qui ont réussi à survivre en partie?
Pas dans ce quartier, parce que les quartiers qui étaient les plus touchés, c'était les quartiers historiques. Donc Varsovie a été pratiquement condamnée à mort en 1944, quand déjà un quart de la ville était complètement rasé, c'est-à-dire le quartier du ghetto. Il a cessé d'exister après l'insurrection du ghetto.
C'est ça, donc les Allemands l'ont rasé.
Mais après, en 1944, a commencé l'insurrection de Varsovie, qui a tellement agacé Hitler qu'il a donné l'ordre à ses soldats d'anéantir cette ville rebelle. Et même après la capitulation de l'insurrection, où ils pouvaient franchement laisser la ville tranquille, ils ont quand même détruit la ville avec de la dynamite, des lance-feux. Donc ce n'est pas uniquement des bombardements ou les combats dans les rues, c'est la destruction systématique est faite exprès. Donc comme cette rue appartenait à la voie royale, hein, c'est la partie très élégante, très historique de la ville, donc elle était détruite, elle était une des premières à être rasée.
Donc cette maison a été reconstruite,
donc,
par exemple.
Tout ce que vous voyez ici, c'est reconstruit.
La seule à l'identique.
Mais la seule différence, c'est la hauteur de maison, parce qu'avant la guerre, les maisons avaient des hauteurs différentes. Il y avait les 5 étages, 3 étages, 4 étages. Maintenant,
on a nivelé, on a harmonisé.
Pour l'élégance, voilà, on a décidé d'harmoniser.
Donc il y a 2 étages. Elle est très jolie, cette maison avec le café.
Si vous tournez à gauche ou à droite, vous voyez vraiment des superbes hôtels particuliers qui appartenaient à la noblesse, à l'aristocratie polonaise, à des familles Branicki, Potocki, Czartoryski. Ils ont fait vraiment des chefs-d'œuvre dans cette Varsovie du 17e, 18e siècle. Après 19e siècle, ce sont plutôt les riches industriels qui ont décoré la ville avec leur nouveau palais, mais dans un style un peu différent.
Nous sommes arrivés à Gnieszka sur une place avec la statue de Copernic, d'une part.
Oui, donc c'est pas vraiment...
Mais c'est pas Copernic qui nous intéresse le plus.
Oui, c'est pas vraiment une place, c'est les débuts d'une rue plus large qui est la continuation de la rue du Nouveau Monde et qui s'appelle rue du Faubourg de Cracovie. Faubourg de Cracovie parce qu'elle sort de la vieille ville, donc ancienne ville de Varsovie, vers le sud. Et donc ici, c'est plus large. Et c'est tout le long de cette avenue que nous trouvons des palais des aristocrates, des églises, des monuments présentant des grands personnages de notre histoire. Donc c'est vraiment un musée en plein air, on peut dire. Copernic, effectivement, il est là parce qu'il est assis devant le bâtiment de l'Académie des sciences, mais nous nous intéressons plus au personnage de Chopin, parce que nous sommes en même temps juste devant l'église de la Sainte-Croix, où se trouve le cœur de Chopin.
Donc son cœur qui a été rapatrié, son corps est resté au Père-Lachaise.
Il a été rapatrié de Paris, tout à fait. Il aurait bien aimé revenir à Varsovie pour son enterrement, même mort, il voulait le faire. Mais il n'y a pas eu l'autorisation du tsar russe, parce que c'est l'époque de l'occupation. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle Chopin n'est jamais revenu à Varsovie. Il a été tout simplement interdit ici. Parce qu'il était engagé dans le mouvement anti-tsariste à Paris.
C'est une forme d'exil,
voilà, il était sur la liste noire du tsar. Même après la mort, ça ne pouvait pas être fait. Donc son cœur a été rapatrié.
Il n'est jamais revenu jouer ici ?
Non, jamais. Jamais. Il n'a jamais revu Varsovie. Il n'a jamais revu sa maman. Il a vu son père. Il l'a rencontré 2 fois à Berlin. Maman, jamais. Il est parti à l'âge de 20 ans, en 1830. Il est mort en 1849.
Il avait 39 ans.
39 ans, tout à fait. Et il n'a jamais vu pendant 19 ans d'exil, il n'a jamais vu sa maman, mais l'exil n'a pas été peut-être tellement dur. Il était à Paris, il faisait partie de la haute société pratiquement. Il était professeur de piano, des plus grands aristocrates, il vendait bien ses notes.
Oui.
Ça se voit bien. D'après les adresses de Paris où Chopin habitait, il a commencé boulevard Poissonnière, il a quand même fini place Vendôme.
Thank you.
on voit bien qu'il a fait une carrière.
Il avait l'ascenseur social.
Tout à fait.
Puis il était baigné entre les femmes et entre les jeunes femmes.
Tout à fait. Il a toujours eu un faible pour les femmes. Il en a eu beaucoup. Il n'a jamais été marié, par contre, il a eu beaucoup d'amis. Et bien sûr, l'histoire d'amour la plus connue, c'est George Sand. Mais il avait déjà à Varsovie des copines. Il a même été fiancé une fois. Mais le père de la fiancée ne voulait pas avoir un musicien. Hein, comme,
pas de musicien dans la famille.
Pas de musicien dans les familles nobles en Pologne, non, non. Ça aurait été une mésalliance. Ouais. Donc, quand il est parti, bien sûr, il a eu plusieurs relations. Sa dernière relation, c'est avec une Écossaise qui s'appelait Jane Stirling et qui a fait vraiment une grande chose parce qu'elle a mis de l'ordre dans tous les papiers liés avec
Chopin. Elle l'a accompagnée jusqu'au bout, elle.
Voilà, elle l'a accompagnée jusqu'au bout, comme sa sœur Ludwika, comme les amis qui sont restés avec lui jusqu'à la mort. Après, comme le dernier vœu de Chopin était que son cœur revienne à Varsovie, la sœur a rapatrié le cœur en cachette, parce que bon, Chopin était interdit en entier, mais en partie aussi, hein, donc, si on peut dire comme ça. Donc le cœur est revenu en Pologne dans un bocal en cristal rempli de cognac.
Donc
c'est
conserver.
Le cognac français, voilà,
c'est mieux que le formol.
qui a permis de conserver le cœur, qui se trouve muré dans une urne, dans un pilier de cette église. On ne le voit pas. Non, non, il y a juste une plaque commémorative.
Et c'est son premier emplacement ?
Il a été mis là dès le départ. Au début, un peu en cachette, parce qu'on ne pouvait pas dire que le cœur de Chopin se trouve à Varsovie. Mais après, on le savait déjà. Et il se trouve toujours dans cette église de la Sainte-Croix qui, ce qui est intéressant, était la dernière église paroissiale de Chopin parce que juste à côté se trouve son dernier appartement. Il fréquentait cette église comme ses sœurs, sa maman qui habitait dans ce palais.
Ah hein, oui, juste en face de nous.
Ça ne veut pas dire qu'elle possédait tout le palais.
D'accord, c'est un gros palais là.
C'est un gros palais, mais les anciens palais des aristocrates, qui encore au 17e, 18e siècle étaient richissimes, au 19e devaient être vendus ou étaient divisés en appartements. Donc c'est un des appartements qui était occupé par la famille de Chopin.
Et puis après, il a ouvert, donc Nicolas Chopin, une espèce de pensionnat, enfin de...
C'est sa femme qui,
sa femme.
Qui
ah,
s'en
sa
occupait,
femme.
Oui. Mmh. C'est la maman de Chopin, Justyna Krzyżanowska.
Qui, elle, est polonaise,
qui est polonaise et qui a... Bon, c'était un peu pour gagner un petit peu plus d'argent, parce que les salaires des professeurs n'ont jamais été très élevés. Au 19e siècle, pareil, oui. Donc, pour que la famille gagne un petit peu plus d'argent, elle tenait cette pension, mais qui est devenue très renommée, d'autant plus que son mari, donc le papa de Chopin, il donnait des cours supplémentaires à des garçons qui habitaient chez eux. Donc, la pension de monsieur et madame Chopin était une des adresses les plus renommées de ce genre. Ouais.
Est-ce qu'il y avait à cette époque-là un côté un peu prestigieux du français, de la langue française ?
Mais tout à fait, parce que le français était une langue des nobles, des aristocrates.
Oui, c'est ça.
Donc c'était en quelque sorte la langue dans laquelle communiquait toute la noblesse européenne. Donc chaque enfant devait connaître le français. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier poste de travail de Nicolas Chopin, c'était la famille noble où grandissait une petite fillette qui s'appelait Maria Łączyńska, qui est connue dans l'histoire sous le nom de Madame Walewska, la maîtresse, le grand amour de Napoléon. Donc c'est le papa de Chopin qui lui a appris les premières paroles en français, géographie, biologie, tout ça, tout ce qu'une fillette pouvait apprendre à la maison de la part d'un précepteur. Et il paraît que Napoléon la vantait beaucoup sur ses connaissances. Donc c'est un peu grâce au père de Chopin qu'elle connaissait tout ça.
Donc Chopin, on peut dire que Chopin c'est un nom français ?
Ah, tout à fait, c'est un nom français parce que bon, il porte le nom de son père qui était français. C'est un nom français mais qui est légèrement polonisé parce que nous écrivons Chopin soit en version française, donc avec C-H-O-P-I-N, mais nous l'écrivons aussi en version polonaise, donc S-Z-O-P-E-N.
Ah oui.
Chopin.
Ah oui, et donc oui. Les Français qui regardent le nom ben, ne comprennent pas que c'est Chopin.
Tout à fait.
Radio Polonia.
Ce premier Suivez le guide à Varsovie nous permet d'évoquer la star de Varsovie, Frédéric Chopin, très présent dans le centre-ville, de parler aussi de son père, Nicolas Chopin, vosgien, né à Marinville-sur-Madon, un petit village près d'Épinal.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Alors comme il y a plusieurs appartements dans lesquels a vécu Chopin à Paris, y a-t-il plusieurs maisons Chopin ici, enfin où a vécu Chopin à Varsovie?
Ah oui, oui, tout à fait, donc il y a au moins 6 adresses qui sont identifiables. Bon, à cause de la destruction, certaines maisons, certains palais ne se sont pas conservés. Par contre, celui-là, il a été bien reconstruit. C'est le palais qui, à l'origine, appartenait à la famille aristocratique Chapsky. Et aujourd'hui, c'est le siège de l'Académie de Beaux-Arts. Mais si vous regardez en haut, vous pouvez voir au premier étage une plaque commémorative. Voilà, Frédéric Chopin habitait et composait ici avant de quitter Varsovie en 1830. Hein. Donc, c'est sa dernière adresse à Varsovie. Ouais, okay. C'est pour cela que c'est important.
Il est parti tout seul à 20 ans?
Il est parti tout seul parce que l'idée était de faire une tournée, de se montrer. Il ne croyait jamais qu'il ne reviendrait pas. Mais quelques semaines après son départ, a déclenché une grande insurrection, parce que les Polonais sont les spécialistes des insurrections perdues malheureusement. C'était l'insurrection que nous appelons l'insurrection du novembre. Elle a complètement bouleversé non seulement la situation en Pologne, mais aussi la vie des milliers de gens. Et c'est après cette insurrection qu'à Paris se forme ce que nous appelons la grande émigration. Donc beaucoup de Polonais qui ont dû quitter la Pologne pour des raisons politiques. Hein. Ils ont été persécutés par le tsar ou expropriés. Donc c'est un grand aristocrate qui s'appelait Adam Czartoryski qui a son siège à l'hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis qui groupe autour de lui l'élite polonaise à laquelle appartiennent aussi des grands écrivains, des grands intellectuels, mais aussi des grands musiciens. Donc Chopin, il appartenait à ce groupe, qui est un groupe évident d'opposition contre le tsar, mais ce qui fait que le tsar n'a jamais autorisé Frédéric Chopin de revenir dans son pays natal. C'est pour cette raison-là qu'il n'a jamais revu sa maman, qui n'avait pas une très bonne santé. Donc à cette époque-là, bon, le voyage était quand même quelque chose de très fatigant.
Oui, c'était un long voyage quand même.
Oui, oui, il n'y avait pas encore de chemin de fer. Donc Chopin, il est parti de Varsovie en calèche, en diligence. Hein. C'était la calèche de la poste.
Donc il ne fallait pas une heure et demie pour arriver en France.
Non, non, non.
On peut dire que Chopin, comme Liszt d'ailleurs, qui était son ami, hein, Liszt, on peut les comparer vraiment à des pop stars de l'époque.
On peut, mais Liszt avait quand même un caractère un peu différent, parce que Liszt était une star.
Oui.
Liszt aimait bien des grands concerts,
côté scène,
beaucoup de public, c'était un peu Michael Jackson de son époque. Par contre, Chopin, il préférait les petites salles, il jouait le plus volontiers dans les salons des aristocrates, uniquement quand il avait vraiment besoin d'argent, il acceptait de jouer dans les salles comme Pleyel, n'est-ce pas? Sinon, il vivait surtout de ses compositions, qu'il vendait très bien, et des leçons.
Oui.
Il donnait des cours de piano.
À des personnes fortunées.
À des personnes très fortunées, hein, quand on voit
c'était cher
la liste, voilà, la liste de ses
élèves.
Étudiants.
On voit la liste au musée Chopin.
Oui, oui.
Donc c'est très féminin. Ouais. Ben, je me demande si ce n'est pas 100% féminin d'ailleurs.
Certainement. Thank you.
Alors peut-être un mot, parce qu'on ne va pas y aller, Agnieszka, bah, du musée Chopin. Quand on vient à Varsovie, si on s'intéresse à Chopin, on va visiter le musée Chopin.
Ah oui, c'est un des musées les plus intéressants de Varsovie. C'est un musée très moderne. On en a eu quelques-uns dans les dernières années. La ville a obtenu quelques
Donc dans un hôtel particulier.
Interactif, voilà. C'est un musée qui est aménagé dans un ancien château même. Hein. Donc, il y a cette combinaison de l'ancien château avec l'exposition très interactive, très moderne, qui montre la biographie de Chopin façon assez intéressante, hein, parce que ce sont les îles thématiques. Hein, donc, vous pouvez choisir un sujet que vous voulez. C'est un musée où chacun visite individuellement et choisit, on peut dire, son niveau.
Ça peut être vraiment pour spécialistes et puis pour néophytes aussi.
Tout à fait.
Avec finalement pas énormément d'objets directement liés à Chopin, il y a beaucoup de dessins, de tableaux, d'illustrations. Et une pièce qui est consacrée à la mort de Chopin, d'ailleurs, la pièce sombre.
La pièce très sombre, où il y a les articles de presse à Paris qui ont apparu le jour de la mort de Chopin. Encore une gloire musicale qui vient de s'éteindre, par exemple. C'est quand même très émouvant.
Oui, avec des dessins qui ont été... pris sur son lit de mort. Hein. On faisait pas... Il y a même des photos d'ailleurs, on voit même des photos d'aguerrotypes
de
Chopin. Donc on peut voir Chopin à la fin de sa vie en photo à 47-48 ans. Ouais, en photo,
donc, hein. Cette photo, c'est certainement le plus proche de son vrai physique, hein, parce que les tableaux qui sont faits par des peintres très renommés, comme Delacroix aussi.
Oui, qui était son ami.
Chaque tableau est différent, donc il est très difficile de se faire une
comment était vraiment Chopin.
Voilà, sur son vrai visage. Mais cette photo, elle nous montre un homme fatigué, malade, peut-être souffrant.
Oui, on a du mal à imaginer un séducteur,
oui,
là.
Oui, tout à fait. Vous avez raison, oui. Mais c'est sa personnalité, c'est peut-être pas son physique qui séduisait les femmes. Ouais. C'est sa personnalité.
Et sa musique.
Sa renommée aussi. Hein.
On lit par exemple que Chopin raconte le moment, enfin, il était, je ne veux pas dire heureux, mais d'entrer en agonie. Quand il raconte, quand il entre en agonie, en gros de vivre sa mort. Hein.
Bah oui, c'est un grand intellectuel aussi, donc il ressentait tout quand même un peu différemment que les personnages communs. Jusqu'à la fin, il gardait quand même un sens d'humour qui était bien particulier. Les amis décrivent, hein, les rencontres avec Chopin quelques semaines, deux, trois mois avant la mort. Il n'a pas perdu son sens d'humour. C'est fantastique.
Bon, on va tester un autre banc.
On va tester un banc qui se trouve devant l'église des Sœurs Visitandines, où Chopin gagnait son premier argent de poche parce qu'il tenait l'orgue de dimanche dans cette église. Hein, donc, essayons.
Allez, je vous laisse appuyer.
Ça joue.
On peut faire aussi un selfie à Varsovie. Voilà. On peut revenir de Varsovie avec un selfie de soi avec Chopin.
Oui, justement, c'est un banc qui est bien particulier. Ce n'est pas tous les bancs.
Ah, c'est pas tous les bancs.
C'est uniquement celui-là. Parce que tous les bancs vous offrent la possibilité, à partir d'une application, d'avoir un audio guide qui vous montre Varsovie de Chopin. Mais ce banc-là, précisément, il vous offre la possibilité aussi de faire une selfie avec Chopin. Vous voulez essayer, non?
Ben, essayons.
Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Chopin. Je l'aime bien, Chopin. Je jouais bien Chopin chez moi à Varsovie. J'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin. Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Varsovie. Varsovie.
Terminons ce premier Suivez le guide à Varsovie en passant d'une star à l'autre, l'autre à consommer avec modération. Passons de Chopin à la vodka. Nous sommes au restaurant et musée Elixir en plein centre de Varsovie avec Pavel.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Radio Polonia.
Hello, my name is Pavel. I'm the manager of the Elixir restaurant, which is in a vodka house in Warsaw.
Mon nom est Pavel, je suis le manager de ce restaurant qui s'appelle Elixir dans la maison de la vodka. Et nous sommes, Pavel, juste en face de l'Opéra National, devant moi et derrière vous. On est en plein cœur de cette capitale Varsovie et c'est un restaurant très original, Elixir House, où vous faites le mariage et ce sont des accords. En France, on a l'habitude des accords mets vins, mais vous, vous avez créé les accords mets et vodka.
You have absolutely right. Maybe I will start from the whole concept.
Donc Pavel va nous raconter toute l'histoire depuis le début.
Okay, so the Vodka House is a platform for many activities.
Donc il y a plusieurs activités ici dans cette maison de la vodka.
The first one was the Elixir restaurant.
Première activité, c'est ce restaurant, Elixir restaurant.
It's the first in the world.
Le premier au monde.
Food and vodka pairing.
Donc plat et vodka. Donc cet accord plat vodka.
Restaurant. So for every meal.
Donc pour chaque plat.
We suggest we prepare two different types of vodkas.
Donc on suggère, le restaurant suggère deux vodkas différentes pour chaque plat.
The first one is for opening.
Donc la première vodka c'est pour ouvrir, finalement s'ouvrir. Hein.
It works amazing with the fruit flavors.
Ça fonctionne très bien avec des parfums de fruits.
And the second one is for closing.
Donc le second petit verre de vodka, c'est pour terminer en fin de plat.
A mission of this vodka is to clean your palate.
Et c'est pour se nettoyer le palais. On se nettoie le palais à la vodka ici à Varsovie.
And prepare you for the another meals.
Et se préparer pour le plat suivant.
That was the first part of our concept.
Donc ça c'est la première partie du concept.
The second one is vodka atelier.
Le second élément, seconde partie, c'est l'atelier de la vodka.
Our atelier has one of the biggest collection of vodka in the world.
Donc cet atelier a l'une des plus grandes collections offres de vodka au monde.
We have more than 600 different types of vodkas.
Donc plus de 600 vodkas différentes, variétés de vodka.
From many continents.
De plusieurs continents.
Absolutely different styles.
Donc des vodkas très différentes.
Another thing in our concept is our cocktail bar, The Roots.
Donc il y a aussi un bar à cocktail.
We have over there the great bartenders with Tomek Małek.
Tomek Małek.
Yes.
Donc c'est un barman très célèbre. Hein.
He's famous in all the world.
Il n'est pas connu et célèbre en Pologne, il est connu dans le monde entier. But he's Polish.
Yes, he's
Mais il est polonais.
Yes, but he's six-time world champion in flair bartendering.
Donc il est 6 fois champion du monde.
In our concept is the first vodka museum in Poland.
Et il y a aussi, alors ça je l'ai visité, le premier musée de la vodka en Pologne.
It was opened in December 2017.
Ce musée s'est ouvert en décembre 2017.
And we have over there amazing collection.
Et il y a une collection étonnante.
More than 15,000 of many different items.
Donc il y a 15 000 pièces différentes. Alors je peux le dire, il y a des carafes, il y a des verres, il y a des bouteilles de vodka, il y a des publicités, enfin tout ce qui concerne la vodka et l'histoire de la vodka.
The mission of all our concept.
Donc la mission de tout ça.
Is to show to our guests the culture of vodka drinking.
C'est de montrer la culture dans la dégustation de la vodka.
Because vodka for us, for the Polish people.
La vodka pour nous, les Polonais.
Is like, for example, cognac for you.
C'est comme le cognac pour les Français.
It's very important in our culture.
C'est important dans notre culture, peut-être comme le vin.
Absolutely. That's why we serve to our guests.
C'est pour ça qu'on sert à nos clients.
Vodka in a small rate, just 25
minutes. Vodka dans
minutes.
Tout petit verre. Hein. Ce sont des verres de dégustation. Hein.
Yeah, that's the dégustation. We have even the guests that they can in one evening try more than 30 types of vodkas.
30?
Yeah.
30.
Yeah.
Oui. Donc il y a des clients qui, dans une soirée, dégustent 30 vodka différentes pendant la soirée. Parce que faut bien reconnaître qu'en Pologne, les Polonais sont habitués à manger en buvant de la vodka, sauf qu'on ne boit pas des vodkas différentes, on boit de la vodka tout court et puis on porte des toasts et on boit cul sec. C'est pas du tout ça ici, l'idée c'est pas de boire beaucoup, mais de trouver cet accord, et c'est ça la magie de ce restaurant.
Sip the vodka and connect the flavors of vodka and alcohol, or vodka and food, of course.
C'est ça, c'est vraiment de faire la connexion entre la vodka et la nourriture. Ça a été compliqué à trouver. Quel vodka avec quel plat?
It was very difficult.
C'était très compliqué.
Because we were the first place like that in the world.
Parce qu'on est le premier endroit comme ça au monde.
So nobody did it before us.
Personne ne l'a fait avant nous.
That was the really tough mission.
Donc c'était une mission particulièrement difficile.
But right now I see the amazing effects.
Mais maintenant je peux en constater les effets.
We have many really happy guests.
Donc on a des clients heureux.
And we are really proud because of this concept.
Et on est très fiers de ça. Et les clients ne ressortent pas complètement sous. Hein.
No. They came here really interested.
Ils viennent ici par intérêt.
They want to understand the vodka.
Ils veulent comprendre la vodka.
Vodka is really specific alcohol.
Donc la vodka est un alcool spécifique.
And you can make vodka from many ingredients.
Et on peut faire de la vodka avec plein d'ingrédients.
For example, wheat, rye, potatoes.
On peut faire de la vodka avec différents types de céréales.
Potatoes.
Avec les pommes de terre, bien sûr.
Corn and many
avec
more.
Le maïs et plein d'autres choses.
Also, we can use the many different types of distillation, filtration.
Donc on peut utiliser différents types de distillation de pour filtrer également.
That makes that every vodka has a different taste.
Donc chaque vodka a un goût différent.
That's why, for example, we serve our vodkas.
C'est pour ça qu'on sert nos vodkas.
In a special temperature.
Donc à une température particulière. Et elles sont pas glacées.
Absolutely.
Donc sont pas glacées.
When something is freezed.
Donc si c'est glacé,
you cannot feel any flavor. Il
y a pas de goût.
That's why we serve the vodka in a temperature of white wine.
On sert la vodka à la température du vin blanc.
Something like 6 or 8 degrees.
Entre 6 et 8 degrés.
And that's the idea for vodka.
Donc ça c'est l'idée. Ce de Varsovie, de Liverpool ou bien d'ailleurs, ce de l'Italie, du Nouveau Monde ou bien d'ailleurs. Ils chantent comme nous, ils s'aiment comme nous, ils ont la même faim de vivre. Ceux qui n'ont jamais connu les neiges du printemps, ceux qui n'ont jamais connu le bleu des océans, ils marchent comme nous, ils savent comme nous, le prix des larmes ou bien des rires. Qu'il n'ait pas les mêmes yeux, qu'il n'ait pas la même peau, il faut bien un jour qu'il meure ou qu'il naisse. Ceux de Varsovie, de Liverpool ou bien d'ailleurs.
Complément d'info, le djurek est une soupe aigre à base de farine, de seigle fermenté, de cumin, de légumes divers dans lesquels on ajoute à la fin de la cuisson des lardons fumés ou des œufs durs coupés en deux. Ça tient au corps. Retrouvons Pavel pour terminer notre repas chez Elixir, classé dans les 50 premiers sur les près de 3000 restaurants de Varsovie par TripAdvisor.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
And also the desserts.
Et puis les desserts.
For example, apple pie.
Donc une tarte aux pommes.
Or meringue.
Et de la meringue.
Those are the favorite deals.
Donc ça sont des plats populaires et puis accompagnés de vodka. Il y a cette phrase de Ernest Hemingway sur le mur, j'ai demandé qu'on me la traduise. Hein. En français, ça dit ceci, la civilisation est née avec la distillation.
That's absolutely right. We Polish people have a tradition, written tradition, which has more than 600 years.
Donc il y a une tradition écrite ici en Pologne qui a plus de 6 siècles.
Of making the vodkas.
Quant à la façon de faire la vodka.
So we have the proof for that the Polish people were the first.
Donc il y a la preuve que les Polonais étaient les premiers à faire de la vodka?
Yeah, as a vodka producer.
Les premiers producteurs de vodka au monde étaient les Polonais.
Not the Russians.
Pas les Russes.
Not the Scandinavians.
Pas les Scandinaves.
We were the first.
Nous étions les premiers, enfin, les Polonais étaient effectivement les premiers.
That's why the vodka is so important for us.
C'est pourquoi la vodka est importante pour nous et c'est pour ça que c'est de la culture.
Yeah,
C'est d'abord la culture et après de l'alcool.
It's a really culture of vodka drinking. Right now it's changing and it's a culture of vodka degustating.
Alors, il y avait la tradition de boire la vodka, mais là maintenant c'est la tradition de déguster la vodka.
The guests are really looking for the good products.
Donc les clients cherchent de bons produits.
They want to try unique things.
Donc trouver vraiment des dégustations et goûter des choses uniques.
But not only from the big distilleries.
Mais pas juste des grandes distilleries, mais aussi des petits producteurs, small producers.
Also from the small craft producers.
Des petits producteurs.
It's really popular right now in Poland.
Yeah, à vous entendre parler, c'est exactement comme la culture du vin en France.
Also here in Poland. We have something which is really unique because we have the appellation for the vodka.
Ah, ici en Pologne, il y a l'appellation pour la vodka. Mais il y a le personnel qui est formé. Dans ce restaurant, on vous parle de la vodka comme un excellent sommelier parle des vins en France.
Yeah, but they have, I think, harder mission.
C'est une mission dure, plus dure.
Because mostly in the restaurants, you have something like 30, 40 wines.
Donc dans les restaurants, il y a souvent 30 à 40 vins.
Here they have 600 of
et ici, il y a 600 vodkas différents. Ils ont goûté les 600 vodkas.
They have to know that product.
Il faut connaître les produits.
And the best way to know the product is try this product.
Et le meilleur moyen de connaître les produits, c'est de les goûter.
That's the very nice part of this job.
Donc ça, c'est la partie agréable du travail. Mais ils le recrachent.
Sometimes.
Parfois, parfois, pas toujours. Nous avons évoqué, Pavel, la matière première pour faire la vodka, mais pas les parfums. Donc on a, nous, en France, on a l'idée d'une vodka que... Bon, il y a différentes qualités, mais elles sont toutes un petit peu le même goût. Alors qu'ici, il y a des vodkas, mais qui sont vraiment très différents, avec des fruits, avec des plantes, avec des fleurs, donc, et avec des couleurs différentes.
Here in Poland, we have a very long tradition of vodka.
Donc ici, il y a cette longue tradition de la fabrication de la vodka en Pologne.
That's why we have many different types of vodkas.
Donc il y a des vodkas très différents.
Of course, we have pure vodkas.
Donc la vodka pure. Bon, c'est celle qu'on connaît plutôt en France.
Okay. We have vodka with the fruit macerates.
Donc, vodka avec macération de fruits.
Yeah, we have vodkas with herb macerates.
Donc les vodkas avec macération d'herbe cette fois.
We have vodkas even with the coffee macerates.
Avec du café aussi. Yeah, coffee, yeah. Avec du café.
They are really amazing.
C'est étonnant.
We have also here in Polish tradition very important.
Donc dans la tradition polonaise.
Are the liqueurs.
Donc les liqueurs.
They have a little small LBV, so the number of alcohol.
Alors, le degré d'alcool baisse.
Yeah.
Il y a moins d'alcool.
Yeah, but you can make it from many different.
Et on
fruits.
Fait différents fruits.
And we can say they are kind of dessert vodkas.
Donc ce sont des vodkas de dessert finalement.
And also from the 16th century, we make something like it's called hannes.
Donc depuis le 16e siècle, on produit ce qu'on appelle des miels, honey, des miels.
Yeah. Ouais. With the alcohol, something like 10 or 12%.
Alors, 10 à 12% d'alcool.
They are very good also as appetizers.
Donc, c'est très bon en début de repas.
And they are very healthy.
Et bon pour la santé. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le restaurant Elixir est au guide Michelin.
Yeah, we are in a Michelin guide.
Donc, au guide Michelin.
It was, I think, one of the fastest debuts in the.
Donc, c'était très rapide.
after the 4 weeks from
après
opening.
Après 4 semaines après l'ouverture.
We get here the Michelin inspector.
Donc l'inspecteur est venu ici.
It was amazing and big.
C'était étonnant.
Nobition for us.
C'était étonnant parce qu'on s'attendait pas.
Non,
ils s'attendaient pas du tout à ça.
Unfortunately, so that shows that the concept is really interesting.
Donc ça prouve bien que le concept est intéressant.
And it changed people's thinking about the vodka.
Et ça change la façon dont les gens pensent et se représentent effectivement la vodka. Bah, merci beaucoup Pavel, c'est passionnant parce qu'en France on a parfois l'idée de vodka, on boit beaucoup, on est complètement sous et c'est vraiment pas ça du tout ici, c'est pas du tout l'idée qui est véhiculée ici. Donc on boit, on doit l'ajouter dans chaque sujet quand on parle de boissons alcoolisées avec modération, mais ici on boit avec modération.
Remember our mission is to show the vodka degustation culture.
Donc, notre mission, c'est de montrer la, la dégustation et la culture hein, de la
not,
vodka.
Not the vodka drinking.
C'est pas de, de boire beaucoup.
So, of course, please try understand the product and degustate this product.
C'est ça. Il faut essayer de comprendre le produit et le déguster.
But not get drunk.
Et de pas être sous.
Okay.
Merci beaucoup.
Thank you. It was a pleasure.
It was a pleasure, yeah. For me too.
Thank you.
Potem ktoś mi lustro słów. I to wszystko było w piątek 13, jak na złość. Jak na jeden dzień, to chyba całkiem dość. Jak pani widzi, jak to chce dzieje się.
Dégustation de vodka avec modération pour terminer ce premier suivi le guide à Varsovie. Nous retrouverons notre guide incollable sur la capitale polonaise, Agnieszka Biesadeka. Suivi le guide préparé avec la complicité de Elzbieta Janik de l'Office du tourisme polonais à Paris. Merci Pavel au restaurant Elixir pour son accord Mes Vodka. Réalisation Roman Feokiu, un guide conseiller, le petit futé Varsovie. Dziękuję et à bientôt.